Voilà, je sais, Margot Delpierre, vous auriez préféré qu'il y ait du Gilbert Montagnier, notamment parce qu'il a eu la Légion d'honneur, mais peut-être qu'on en passera tout à l'heure, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura un peu de Gilbert Montagnier. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va parler d'écologie. Le renouveau démocratique passera-t-il par la crise écologique? On posera la question à un philosophe, Pierre Charbonnier, qui publie un ouvrage majeur sur la pensée de l'écologie et qui sera notre invité à partir de 7h40. Et puis, on évoquera la manière dont l'écologie a du mal à s'articuler avec la politique. En attendant, eh bien, figurez-vous qu'il est 7h30. Alors, je vous souhaite un bon réveil et puis une bonne année sur France Culture. Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La polémique a grandi hier après la publication au journal officiel de la promotion du nouvel an de la Légion d'honneur. Sur cette liste longue de 487 personnes figurent des inconnus et des personnalités. On y trouve notamment le patron de la branche française du fonds BlackRock, géant américain de la finance. En plein conflit sur la réforme des retraites, Jean-François Cirelli est élevé au rang d'officier et ça n'est pas passé inaperçu d'elle. Fin Simon.
Fondé en 1988, BlackRock est aujourd'hui le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Près de 7000 milliards de dollars, une somme équivalente à presque trois fois la richesse de la France. Fonds de pension, fonds souverains, sociétés d'assurance, environ les deux tiers de ces actifs concernent l'épargne retraite. Un tiers investi en actions, notamment dans des fleurons du CAC 40, Schneider Electric, Thales ou AXA. Avec Jean-François Cirelli, BlackRock s'est allié les services d'un familier des cercles du pouvoir. Cet ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Jacques Chirac, ancien PDG de GDF et d'Engie, entretient des contacts réguliers avec l'exécutif. Dans une note intitulée « La loi Pacte, le bon plan retraite », BlackRock fait ses recommandations au gouvernement à propos de la réforme de l'épargne retraite. De quoi alimenter les soupçons de collusion? Certains, comme le député LR Olivier Marleix, souhaitent que BlackRock déclare ses activités de lobbying auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Delphine Simon. Au 29e jour de grève contre cette réforme des retraites, une seule ligne de métro est totalement fermée, la 7 bis. Les autres, pour la plupart, ne circulent que partiellement. Trafic également perturbé sur les RER A et B. D'après la SNCF, un TGV sur deux roule en moyenne, un TER sur deux et trois Ouigo sur cinq. Ce conflit social dure depuis aussi longtemps que le blocage des transports de 1986 et 87. Des procureurs perquisitionnent le domicile de Carlos Ghosn aujourd'hui à Tokyo. C'est en tout cas ce que croit savoir la télévision publique japonaise NHK. L'ex-patron de Renault-Nissan est accusé de malversation financière. Il attendait son procès assigné à résidence, mais a fui il y a quelques jours pour rejoindre le Liban. Un départ qui a surpris les médias et qui en fait était très préparé. Les détails avec notre correspondant à Beyrouth, Aurélien Colli.
Une opération très professionnelle du début jusqu'à la fin. Voilà comment une source de l'entourage de Carlos Ghosn résume l'exfiltration de l'ancien PDG du Japon, en précisant que même le pilote de l'avion ne connaissait pas l'identité du passager très spécial qu'il transportait. Pour exécuter cette évasion clandestine, une société privée de sécurité, autrement dit des spécialistes rompus aux méthodes des services secrets, et à la manœuvre deux personnages, l'un des avocats de Carlos Ghosn au Liban, chargé notamment de faire le lien avec les autorités libanaises qui l'ont toujours défendu, et son épouse Carole, qui se serait, elle, appuyée sur ses demi-frères très introduits en Turquie, où l'ancien numéro 1 de Renault a fait escale avant d'arriver à Beyrouth. Le déroulement de l'opération, minutieusement préparé, reste inconnu. Selon des médias libanais, Carlos Ghosn aurait fait venir des musiciens à son domicile de Tokyo, placé sous surveillance, pour ressortir dissimulé dans une malle d'instruments de musique et être conduit sur un aéroport secondaire du Japon où un jet privé l'attendait. Une version démentie par son épouse, qui n'a pas donné plus de détails sur cette fuite rocambolesque.
Carlos Ghosn qui s'exprimera mercredi prochain lors d'une conférence de presse. Nous sommes parvenus à réunir le meilleur des deux mondes. Déclaration hier de Sébastien Kurz, le conservateur autrichien qui revient au pouvoir en tandem avec les écologistes. Un accord inédit annoncé hier soir après plusieurs semaines de négociations. Le chef de file des Verts va donc devenir vice-chancelier. Nous avons, dit-il, atteint une entente plus large que nous le pensions en matière de protection du climat. Et nous y reviendrons dans un instant dans la la revue de presse internationale avec Adrien Taufollet. 400 personnes ont été arrêtées hier à Hong Kong pendant une manifestation marquée par des affrontements avec la police. Plus d'un million de Hongkongais sont descendus dans la rue, selon les organisateurs. Depuis 7 mois, l'ex-colonie britannique est secouée par une crise la plus grave depuis sa rétrocession à Pékin en 97. Les manifestants réclament plus de démocratie. Le ciel est encore gris aujourd'hui sur une grande partie de la France avec parfois quelques pluies du Poitou-Charentes au Pays de la Loire et vers l'Île-de-France. Ce sera beaucoup plus lumineux en Corse. Il ne fera pas plus d'un degré à Strasbourg, 7 à Lille, 8 à Paris, 11 à Brest, 5 à Lyon, 10 à Bordeaux et 13 degrés à Nice, Guillaume.
Eh bien, merci beaucoup Margot Delpierre. Il est 7h35 sur France Culture. La revue de presse internationale. Bonjour Adrien Taufollet.
Bonjour.
Alors on va beaucoup parler d'écologie et de politique et on en parle aussi dans votre revue de presse internationale puisque ce matin il y a une drôle d'alliance qui est conclue entre le turquoise et le vert. C'est en Autriche et elle fait le tour de la presse.
L'alliance inédite de deux couleurs politiques avec un bébé du 1er janvier que s'amuse à décrire le quotidien Österreich. Un enfant annoncé par ses parents hier soir à 21h03 très précisément. L'Europapa conservateur et de nouveau chancelier Sébastien Kurz et l'Europapa vert et vice-chancelier Werner Kogler ainsi que leurs partis respectifs l'OVP et Die Grünen sont fiers de vous annoncer la naissance d'un programme commun de gouvernement. Un petit bonheur inédit en Autriche, car ce contrat de coalition signé hier entre les deux leaders met un terme à plusieurs semaines de négociations et scelle une alliance entre les conservateurs ultralibéraux et les écologistes de gauche. Voilà qui marque un virage à 180 degrés pour la libre Belgique, puisqu'il y a 2 ans, Kurz avait fait un choix de coalition bien différent, celui de gouverner avec le parti d'extrême droite FPO, un mariage qui s'est soldé par un divorce au bout de 18 mois suite à un scandale de corruption impliquant la formation nationaliste. D'autant que les Verts, ancrés à gauche, je le disais, pendant toute cette période ont été de virulents opposants, révulsés par leur politique d'immigration, de sécurité et leur choix budgétaire, rappelle le journal belge. Mais Kurz, à 33 ans maintenant, demeure un brillant tacticien. Sorti vainqueur des élections générales de septembre, il tend la main aux écologistes arrivés quatrième avec environ 14% des suffrages. Les deux partis détiennent ensemble 97 sièges au Parlement autrichien qui en compte 183. Et les voilà donc qui s'entendent sur un programme commun avec un futur gouvernement jeune, féminin, à première vue passionnant. Dans leur déclaration à la presse hier, les deux hommes disent avoir réussi à combiner le meilleur des deux mondes, ce qui sous-entendrait que chacun aurait fait des compromis tout en tenant des promesses électorales majeures. Tout cela résumé par cet argument marketing signé Sébastien Kurz, il est possible de protéger le climat et les frontières. Mais pour le quotidien Österreich, il est évident que Kurz est le grand vainqueur de ce pacte, les Verts ne fournissant qu'un habillage écolo. Pour preuve, un document que s'est procuré le journal contenant des détails du futur programme, de prochaines annonces comme l'interdiction du voile jusqu'à l'âge de 14 ans ou la création de nouveaux centres de rétention pour les demandeurs d'asile. Un vrai buffet non pas de couleuvres mais d'anaconda à avaler pour les Verts qui semblent n'obtenir que de petites concessions, un paquet climat, un paquet transparence de l'État et un paquet lutte contre la pauvreté des enfants. Le Süddeutsche Zeitung évoque également un verdissement du système fiscal. Écologie et justice sociale vont de pair, annoncé hier Kogler, prédisant que l'Autriche allait devenir le pionnier européen de la protection du climat. Pas forcément de quoi rassurer son électorat, mais juste assez pour convaincre son parti samedi lors du Congrès fédéral de voter les termes de l'alliance, rappelle le journal autrichien de centre-droit Die Presse. On en saura de toute façon plus cet après-midi avec l'annonce officielle du programme et des membres du gouvernement. Il y a eu plusieurs fuites ces derniers jours dans la presse autrichienne de la nouveauté des femmes, je le disais précédemment. Suzanne Raab, une très proche de Sébastien Kurz, devrait hériter d'un tout nouveau ministère de l'intégration. Le régalien sera a priori aux mains de l'OVP, à l'exception peut-être de la justice. Die Grünen devrait décrocher un super ministère de l'environnement qui inclurait aussi transport, infrastructure, énergie, technologie et innovation, avec à sa tête Léonore Goevesler, ancienne présidente de Global 2000, l'une des plus importantes ONG écologistes du pays, et puis d'autres portefeuilles devraient aussi leur revenir comme la culture et les affaires sociales. Österreich laisse une interrogation en conclusion de sa série d'articles sur le sujet. Combien de temps peut durer une telle alliance.
Alors, une actualité bien différente anime la presse du Royaume-Uni ce matin. C'est la nouvelle campagne de recrutement de l'armée britannique.
Oui, sans surprise, c'est partout pareil dans le monde. L'armée recrute car elle manque de bras et de jambes. Un effectif de 73 000 hommes à temps plein alors que les besoins s'élèvent à 82 000 hommes, révèle le Daily Mail. Un manque difficile à combler. Pire, cet écart progresse d'année en année. D'où le besoin de communiquer pour l'armée qui fait appel à un prestataire, Capita, depuis 2012 pour élaborer ses campagnes de recrutement. Agence très inefficace, si l'on en croit les critiques rapportées par les journaux et les chiffres évoqués à l'instant, sauf l'année dernière. La campagne 2019 « Your Army Needs You » a eu un grand succès, explique le Télégraphe. Succès qui s'est traduit par une hausse des candidatures. 16 000 pour le seul mois de janvier 2019. Et je précise bien candidature et non recrutement. Tous ceux qui postulent ne finissent pas dans les rangs. Les recrutements tournent autour de 8 000. Mais succès donc, et ce malgré la polémique qui a accompagné la campagne, puisqu'on voyait sur les affiches la cible visée pour le recrutement. C'était écrit en gros « les zombies du téléphone, les drogués du selfie, la génération Snowflake ». Snowflake, terme péjoratif utilisé pour parler des nouvelles générations supposées hyper égocentriques et hyper sensibles à la moindre parole de travers. Pour la campagne de cette année, la cible est la même, mais les critiques ont été entendues. Aucune expression polémique. Le slogan « Your Army Confidence Lasts a Lifetime » qu'on traduit par « la confiance en soi, l'estime de soi qu'apporte l'armée dure toute une vie ». Tout cela mis en opposition directe sur les affiches à la confiance en soi que procure la mise en scène de sa vie sur les réseaux sociaux. Le Télégraphe raconte que l'agence s'est basée sur une étude qui révèle que 54% des Britanniques de 16 à 24 ans pensent être handicapés par un manque de confiance en soi. L'armée, explique le Financial Times, viendrait alors satisfaire le besoin de confiance en soi et de reconnaissance que cherche la génération Instagram. Même si la campagne se révélait fructueuse à nouveau cette année, précise le Daily Mail, parenthèse à 3,5 millions d'euros, la campagne peut se révéler fructueuse, on peut l'espérer en tout cas. L'armée prend également soin de revoir ses standards de recrutement. Peuvent désormais candidater les personnes souffrant d'asthme et d'eczéma. Il n'est pas précisé si la Ventoline et la crème leur sera gracieusement fournie. Et puis, pour ceux qui seraient un peu trop lents ou un peu trop larges, comme l'énonce le colonel en charge du recrutement, un stage de 4 semaines est proposé 4 semaines pour battre le chrono et avoir un indice de masse corporelle qui entre dans les standards de l'armée. Il n'est pas précisé non plus dans quel état psychologique se trouvera celui à qui l'armée refuse le droit à une confiance en soi qui dure toute une vie.
Et voilà, la génération Snowflake. Merci beaucoup Adrien Toffolet pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr bien sûr. 7h42.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Le renouveau démocratique passera-t-il par la crise écologique ? Bonjour Pierre Charbonnier, vous êtes philosophe, chercheur au CNRS et chargé de recherche à l'EHESS. Et vous publiez une somme, Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques. Un livre qui incontestablement va faire date, il est publié aux éditions La Découverte. C'est une forme d'histoire de la pensée écologique, de la pensée de la nature. Vous nous expliquerez en quoi il y a aujourd'hui l'aboutissement d'un processus dont vous décrivez les différentes étapes. Mais tout d'abord, comme il s'agit d'une actualité évoquée largement ce matin, notamment dans la revue de presse internationale, j'aimerais avoir votre avis sur cette drôle d'alliance qui est conclue donc entre le turquoise et le vert en Autriche, autrement dit entre un parti conservateur et un parti écologiste de gauche. Vous qui justement avez écrit sur la manière dont l'écologie peut ou non influencer, s'encastrer dans la pensée politique. Qu'en pensez-vous, Pierre Charbonnier ?
Oui, bonjour. D'abord, écoutez, cette coalition, effectivement, un petit peu une surprise, mais elle rend quand même lisible une partie des évolutions idéologiques contemporaines, je pense, puisque le mainstream politique défini par
le courant majeur.
Courant majeur, libéral, qui est incarné par les institutions européennes notamment, produit des contre-mouvements qui sont de différentes natures. Et les deux principaux contre-mouvements, c'est le mouvement, on peut dire, de reconquête de la souveraineté sur une base nationale, à partir de la fétichisation des frontières, donc les conservateurs, et puis un contre-mouvement, on peut dire, de progressisme social à forte coloration verte aujourd'hui, donc les écologistes ou la gauche Labour traditionnelle qui se verdit aussi. Et il se trouve que là, dans ce pays dont les caractéristiques institutionnelles sont différentes de celles auxquelles on est familier, font bah, que ces deux contre-mouvements qui sont radicalement opposés l'un à l'autre en viennent à devoir se coaliser parce qu'ils sont tous les deux minoritaires. Donc probablement que ça ne durera pas longtemps, on peut espérer en fait que ça ne dure pas longtemps pour bien montrer que ça n'est pas tenable, de la même manière en quelque sorte que il n'était pas tenable pour Nicolas Hulot vert de rester dans un gouvernement libéral ou même ultra-libéral. Donc voilà, on assiste à des recompositions et tout ça, ce sont des étapes d'une recomposition qui, à mon avis, va se poursuivre.
Mais alors, donc ça peut relever de la cuisine électorale, mais pourquoi faudrait-il que l'écologie soit de gauche? Là, elle semble l'être. Yannick Jadot, pour les écologistes français, explique que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Qu'en pensez-vous, Pierre Charbonnier?
Alors ça c'est un point très politique mais qu'on peut ramener à des enjeux théoriques qui sont en partie ceux du livre. C'est vrai que si on tient absolument à maintenir le lexique politique habituel de la gauche et de la droite, on peut être un petit peu stabilisé, notamment par exemple parce que les conservateurs prétendent avoir un discours social qui prétend préserver les acquis en fait du modèle social de l'après-guerre, à condition de fermer les frontières. Bon, du coup, il phagocyte une partie du discours de gauche. Et l'écologie, elle, est aussi une héritière, on peut dire, naturelle du mouvement social, mais au prix aussi d'un décalage assez important par rapport à l'idiome politique de la gauche classique, puisque elle exige un freinage de l'économie qui la met en porte-à-faux par rapport à une bonne partie des revendications ouvrières qui étaient liées à l'appareil productif, et on pourrait même dire en quelque sorte productiviste. Donc vous voyez, le clivage gauche-droite effectivement bouge un peu. Moi je considère toutefois que si l'écologie a un sens historique, c'est comme quelque chose qui vient régénérer le contre-mouvement socialiste en donnant de nouveaux appuis matériels à la lutte pour la justice sociale. Ces appuis matériels, c'est la transition énergétique, la transition agroécologique, la reconquête d'une certaine manière des territoires sur la base de ces nouvelles pratiques économiques. Donc moi, je pense qu'elle est l'héritière de la gauche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rupture dans l'histoire politique.
Par exemple, au Rassemblement national, il y a aujourd'hui une tentative de développer un discours écologique un peu sur la base de celui qui pourrait être le discours emprunté par la coalition en Autriche, avec l'idée que finalement il peut y avoir une écologie du point de vue du climat, par exemple, du point de vue de la nature et aussi du point de vue des sociétés humaines. Ça, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, Pierre Charbonnier ?
Oui, bah c'est vrai qu'il faut s'attendre à cette grande déferlante là qui est en train de se préparer du côté de l'extrême droite, qui va réussir, enfin qui va essayer de verdir son discours en disant, pour caricaturer un petit peu, que la fermeture des frontières est une solution à tous les problèmes, ce que eux considèrent comme étant des problèmes sociaux d'immigration, et des problèmes en fait, disons, d'extension des chaînes d'approvisionnement globales qui sont pas bonnes pour le climat. Et donc ils disent bon bah fermons les frontières, redevenons autarciques, et puis on va régler les deux problèmes d'un coup. Bon, moi je pense qu'ils vont aggraver ces deux problèmes. Et d'ailleurs, on peut surtout dire que ce discours-là n'est qu'une façade, parce que quand on regarde les mouvements conservateurs, nationalistes, tels qu'ils existent aujourd'hui, l'exemple du Brésil est, je pense, le meilleur, et celui de l'Inde aussi. Ils servent surtout à préserver le statu quo économique, voire l'accélération des déprédations environnementales. On l'a vu cet été avec les feux en Amazonie. En Inde aussi, c'est un pays qui ne compte pas laisser tomber son approvisionnement en charbon. Bon, les États-Unis, je reviens pas là-dessus.
Mais si, justement, c'est intéressant de revenir là-dessus, puisque dans votre livre « Abondance et liberté » aux éditions de La Découverte, vous dites finalement que Bolsonaro et Trump sont deux symptômes d'une évolution par rapport à la pensée écologique. Qu'est-ce que il y a pour vous à penser chez ces deux personnages en rapport avec l'évolution de la pensée écologique, Pierre Charbonnier ?
Oui, alors je partage avec certains camarades, comme par exemple Bruno Latour, un constat assez général qui consiste à dire que l'arrivée au pouvoir de ce type de personnalité-là est révélatrice d'une situation politique, idéologique plus générale. Cette situation, elle se caractérise par le fait que il semblerait qu'aujourd'hui, pour maintenir le projet en fait, d'autonomie sociale fondée sur un rapport extractif, intensif aux ressources naturelles, il faille désormais en rabattre sur les exigences démocratiques. C'est-à-dire que c'est la fin d'un grand arc historique, celui que j'essaie de décrire dans le livre, qui remonte au moins au XVIIIe siècle, et en fait même, d'une certaine manière, au XVIIe siècle, qui a vu la naissance de ce que j'appelle le pacte libéral. Mmh. Le pacte libéral, c'est l'idée toute simple selon laquelle l'accroissement des, l'accélération de la conquête matérielle des ressources et la conquête des libertés politiques vont de pair. Mmh. Plus nous serons libres et plus nous serons productifs, plus nous serons productifs et plus nous serons libres. C'est ce que répètent sans arrêt les libéraux classiques du XVIIIe siècle, Hume, Smith, et puis d'une manière un peu plus sombre, Ricardo, Malthus, etc.
C'est une conquête de l'autonomie.
C'est une conquête de l'autonomie sur la base de la conquête des gains de productivité, en fait, de la ce qu'on a appelé plus tard la croissance. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est absolument inouïe d'un point de vue historique. C'est que non seulement le cadre matériel à l'intérieur duquel on vit est totalement bouleversé par l'érosion de la biodiversité et le changement climatique principalement. Donc on ne vit plus du tout dans le même monde que celui dans lequel nous vivions auparavant, jusqu'il y a encore 30 ou 40 ans. Et donc ces repères idéologiques qui ont été construits dans le passé, cette manière d'adosser la conquête des libertés politiques sur la conquête, on peut dire, des libertés économiques, eh bien, elle tombe dans le vide. Voilà. Elle est en porte-à-faux. Elle est en décalage par rapport aux capacités de charge du système Terre. Et donc, nous sommes obligés de réinventer de nouvelles formes de coopération, des nouvelles formes de coexistence sociale. Sans quoi, eh bien, le piège se referme. Et ce piège, le prototype de ce piège, c'est Trump, c'est Bolsonaro, qui nous disent continuons à avoir ce rapport extractif-productif, donc c'est le pétrole de Trump. Hein. Et quand on dit Trump, on dit Obama aussi, parce que c'est sous Obama que les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Hein.
Et là, il s'agissait d'une promesse d'autonomie pour les États-Unis.
Tout à fait. Bon, alors pour Obama, ça voulait dire que ça permettait de financer un modèle social, mais en attendant, il n'a fait que plonger son pays plus dans un piège. Et puis du côté du Brésil, c'est donc cette économie extractiviste. En fait, le Brésil, c'est les États-Unis, ce qu'était aux États-Unis au 19e siècle. C'est la lutte entre les cow-boys et les Indiens, en fait. C'est quelques propriétaires terriens, qui sont aujourd'hui directement les élus au Parlement, qui poussent pour faire de l'Amazonie, enfin de cet immense poumon vert qu'est le bassin amazonien, un terrain de jeu pour la filière du soja et du bétail.
Mais Pierre Charbonnier, vous qui êtes philosophe, vous avez écrit ce livre « Abondance et liberté » en plusieurs mois, j'imagine. Il est publié aux éditions de La Découverte. Et vous dites que, durant ce laps de temps, eh bien, il était possible de voir la dégradation des conditions écologiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parallèlement, le temps du politique n'est pas a priori le temps long. Alors, quelqu'un comme Trump ou quelqu'un comme Bolsonaro peuvent très bien prendre des décisions qui sont sur le plan écologique des catastrophes sans en subir les conséquences politiques.
Oui, c'est ça en fait tout l'enjeu du livre. C'est que je pense pour la première fois de l'histoire, on est amené à réaliser que le substrat matériel sur lequel se déploie notre action et qui donne des prises à notre action change plus vite que les catégories intellectuelles dont on dispose. Vous voyez, prenez tout simplement le concept de propriété privée. C'est bon, qui remonte in fine au droit romain, très ancien, mais disons qui est constitutionnalisé, institutionnalisé à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, ça a plusieurs siècles. Et la réalité matérielle qu'on éprouve aujourd'hui, elle n'a que quelques années, quelques dizaines d'années, disons. Hein. Ce nouveau monde où les terres s'épuisent, où le régime des pluies change, où les feux changent totalement le couvert forestier, les températures changent, etc. Ça, c'est un nouveau monde. Et il est plus jeune que notre matériel conceptuel pour l'appréhender. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer à quel point l'appareil conceptuel de la pensée politique, du support idéologique général dans lequel on vit, a toujours été lié à ce que j'appelle dans le livre des affordances matérielles, c'est-à-dire des prises que nous offre le monde matériel pour élaborer des idées. Donc, le vieux monde de l'économie organique, paysanne, agraire en fait, fournissait des prises à la pensée politique. Cette pensée politique, ça a été essentiellement la poussée libérale, individualiste du XVIIIe siècle, les Lumières. Ensuite, le monde des machines, de développement industriel, de la première forme de carbonisation de l'économie, a donné des prises aux luttes sociales ouvrières, la conquête de ce qu'on appelle la démocratie industrielle. Et aujourd'hui, ce nouveau monde, complètement bouleversé par l'explosion des énergies fossiles, notamment du pétrole, doit nous donner des nouvelles prises et doit fournir le socle d'une nouvelle élaboration d'une pensée de la coexistence sociale.
Alors d'où une question qui est souvent posée par des journalistes, Pierre Charbonnier, je sais qu'elle vous agace cette question. Si les catégories mentales dans lesquelles on doit penser le monde aujourd'hui doivent évoluer du fait de la crise écologique, est-ce que la démocratie ne doit pas être mise entre parenthèses ?
Alors, c'est vrai que ça pourrait être une conclusion de dire le projet démocratique étant intrinsèquement lié à la période industrielle, peut-être faut-il l'abandonner.
Mais aussi à l'autonomie, mais aussi à un certain nombre de catégories de pensée, parce que finalement, il n'y a pas de démocratie sans autonomie. Si vous pensez, vous, en tant que philosophe, Pierre Charbonnier, que l'autonomie est aujourd'hui antagoniste avec un impératif supérieur qui est, par exemple, l'intérêt de la planète, est-ce qu'il ne faut pas mettre ce projet entre parenthèses ?
Alors, moi, je ne le pense pas, pas du tout, parce que je ne pense pas que les formes passées de la conquête de l'autonomie adossées à l'intensification économique fassent tomber avec elles le projet démocratique. Tout simplement parce que le projet démocratique, en fait, est plus large, plus général que sa confiscation par les politiques de croissance. D'ailleurs, d'un point de vue historique, la période durant laquelle les économies croissent est assez brève. C'est 1850, 1900, selon les régions, 90, 2000, 2010. Bon, les pays d'Asie sont une spécificité, mais eux aussi ralentissent maintenant. Donc ça, c'est assez bref. Donc il va falloir inventer les bases d'une coexistence démocratique sans le support de la croissance. Donc on peut dire d'une certaine manière que elle n'aura plus grand-chose à voir peut-être avec, disons, les démocraties de consommation de masse, des Trente Glorieuses, par exemple, et encore aujourd'hui, peut-être. Mais en attendant, l'enjeu, c'est pour ça que je me réfère beaucoup à Karl Polanyi dans le livre.
Karl Polanyi, c'est un économiste. Qu'est-ce qu'il disait, Polanyi ?
Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il définit le socialisme comme une force sociale idéologique qui résiste à la désagrégation du collectif par, en gros, le marché. Et le marché et les machines, disons. Bien, aujourd'hui, nous subissons un nouveau choc matériel d'une ampleur aussi profonde que celle du choc d'industrialisation. Et nous devons y répondre en nous protégeant contre ce qu'il peut avoir de pathologique, contre sa capacité à désagréger le corps social. Donc, en cela, l'écologie politique est un effort démocratique parce qu'il entend protéger cette coexistence collective. Les formes institutionnelles qu'elle va prendre, celles-là, je pense qu'elles sont totalement à inventer. Et effectivement, une bonne partie des réflexes idéologiques de la gauche, on pourrait dire, tombe dans le vide.
Mais alors, l'un des messages de cet économiste Polanyi consistait à dire « tout ne peut pas devenir marché, et notamment pas le travail humain, notamment pas la terre. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient strictement encadrées, faute de quoi eh bien, on peut aboutir à des catastrophes. » L'idée de réintégrer un certain nombre de nuisances, j'utilise un euphémisme, voire de catastrophes écologiques dans le prix des choses, de faire une taxe carbone, de faire ce genre de choses, est-ce que par exemple ça pourrait être une manière de réconcilier libéralisme et écologie, Pierre Charbonnier ?
Alors ça pourrait, effectivement, dans le langage économique standard, le réflexe pour réencastrer l'économie dans le système Terre, c'est ça. Ça consiste à imposer des limites réglementaires ou fiscales au développement productif et technologique. Mais il y a une autre manière de faire qui, je pense, correspond plus à ce que Polanyi nous apprend, c'est tout simplement de mettre un terme à l'idée selon laquelle la mission de l'économie est de croître, tout simplement, et même plus de mettre un terme à l'idée selon laquelle l'économie consiste à développer la relation productive avec l'espace matériel, avec les territoires. En fait, si on change un petit peu de regard sur ces choses-là, on peut réaliser que nous n'avons pas réellement une relation productive à la Terre. Par exemple, le monde agricole, on ne produit pas du grain. On cultive une terre pour en actualiser un potentiel, disons, de fertilité. Mais ça s'entretient. Ça ne peut pas se traiter comme un stock. Donc la relation productive, qui est vraiment le paradigme de la pensée moderne, mais aussi de la critique socialiste, je pense à Marx, cette relation productive, c'est une espèce de mythologie, de métaphysique qu'il faut abandonner.
Pierre Charbonnier, vous êtes philosophe. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous pensez de ces pensées de l'effondrement qui sont aujourd'hui très populaires en matière écologique et comment il est possible de réconcilier ou en tout cas d'articuler une pensée politique et une pensée écologique. C'est ce que vous faites dans ce livre important, Abondance et Liberté. Il est publié à la Découverte. C'est une bonne chose de débuter l'année avec vous parce que je pense qu'on va très largement commenter votre ouvrage. Allez, bonne année, bon réveil. Il est 8h sur France Culture. Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le livre a déjà bousculé le monde littéraire et médiatique avant même sa sortie prévue aujourd'hui. Le consentement de Vanessa Springora raconte sa relation sous emprise avec Gabriel Matzneff, plus de 30 ans son aîné. Nous analyserons dans un instant cette complaisance médiatique qui a existé face à la pédophilie.
Et puis nous reviendrons ensuite sur la réforme des retraites. Certains élus de la majorité espèrent que l'exécutif abandonnera l'âge pivot.
Carlos Ghosn a été aidé dans sa fuite par une société privée. Il a quitté le Japon pour le Liban malgré une assignation à résidence. Des perquisitions ont lieu ce matin à Tokyo.
Et puis dans ce journal, nous nous pencherons sur l'accord de coalition gouvernementale en Autriche. Les conservateurs s'allient aux Verts, une première.
Dans un quart d'heure enfin, le billet politique. Frédéric Saïs se demandera si Édouard Philippe est en train de devenir un fusible pour Emmanuel Macron. Ils ont 36 ans d'écart. Elle en avait 14 à l'époque des faits, lui 50. Une relation sous emprise entre l'écrivain Gabriel Matzneff et Vanessa Springora. Elle décrit cette relation dans un livre à paraître aujourd'hui. Un ouvrage justement intitulé, il s'appelle « Le consentement ». Un enfant peut-il réellement consentir à avoir une relation sexuelle avec un adulte ? Vanessa Springora dénonce la complaisance, en tout cas de la société, avec les affaires de pédophilie et particulièrement la complaisance du milieu littéraire. Gabriel Matzneff n'a en effet jamais caché ses relations sexuelles avec des enfants, filles et garçons de moins de 15 ans. L'un de ses derniers ouvrages a même été couronné en 2013 par le prix Renaudot. La pédophilie était promue dans les années 70, dans les écrits et les médias. Et notamment, oui, sur France Culture, il y a plus de 40 ans, Cécile de Kervas-Doué.
Dans les années 70, portées par une génération d'intellectuels qui voulaient pousser plus loin la libération sexuelle, des dizaines de pétitions ont demandé une plus grande liberté sexuelle pour les enfants. Parmi elles, celle de janvier 77, publiée dans le journal Le Monde et écrite par Gabriel Matzneff, qui fait l'apologie de la pédophilie quand les enfants de moins de 15 ans sont consentants. Cette pétition est signée par 69 intellectuels, dont Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Patrice Chéreau, Bernard Kouchner, Jack Lang ou encore Guy Hockenheim, qui le 4 avril 1978 participait à l'émission Dialogue sur France Culture, une émission dans laquelle il défendait, aux côtés de Michel Foucault, la décriminalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs de moins de 15 ans.
Nous avons un ami qui s'appelle Gilbert Villereau. Gilbert Villereau est inculpé pour des faits qui sont extrêmement minimes, extrêmement légers, à savoir avoir simulé une masturbation devant des enfants, et d'autre part d'avoir commis un attouchement sur l'organe sexuel d'un des gamins qu'il a rencontré au cours d'une promenade à vélo. Fait extrêmement léger qui, dans n'importe quelle autre circonstance, à Paris notamment, n'aurait même pas valu la détention préventive.
L'idée défendue notamment dans l'émission par Michel Foucault est qu'il faut écouter l'enfant, qu'il a le droit au plaisir sexuel, le droit d'aimer charnellement un adulte. Et ce courant n'a rien d'une exception dans l'histoire de la société française, considère l'historienne spécialiste de la pédophilie, Anne-Claude Ambroise Rendu, au micro de Fiona Mogadam.
L'idée que le crime sexuel c'est une chose grave est une idée très récente, qui est liée à la prise en compte de la réalité de ce que c'est qu'un enfant, qui est liée aussi à la dénonciation du patriarcat et de la domination masculine. Jusqu'au milieu des années 80, l'utilisation du corps des enfants depuis des millénaires rentrait dans une espèce d'ordre admis.
La plupart des intellectuels pro-pédophilie ont cessé après les années 80 d'afficher de tels points de vue, à l'exception notable de Gabriel Matzneff qui en 2013 fustigeait le revirement hypocrite de tous les des anciens signataires.
Et qu'en est-il de la loi? Que disent-elles sur la pédocriminalité? De l'attentat à la pudeur en 1810 jusqu'au refus du gouvernement en 2018 d'inscrire un âge minimal de consentement dans la loi. Histoire détaillée à retrouver en une de notre site franceculture.fr. J'ajoute que Vanessa Springora, auteure du consentement publié aujourd'hui, sera notre invitée demain dans les matins de France Culture. La grève contre la réforme des retraites entre ce jeudi dans sa 29e journée, égalant ainsi le plus long blocage des transports depuis 1986-87. Et ce jeudi encore, aucun compromis ne se profile. Le 31 décembre au soir, Emmanuel Macron a redit sa détermination à mener cette réforme à son terme. Les négociations avec les syndicats doivent reprendre mardi prochain. Y aura-t-il un accord sur l'âge pivot? Si les syndicats sont sceptiques, la majorité présidentielle, elle, veut y croire. À l'image de Jean-François Césarini, député du Vaucluse, qui avait signé avec une quinzaine de collègues une tribune pour abandonner cet âge pivot. Il estime qu'Emmanuel Macron les a entendus.
Une phrase dans le discours nous donne plutôt raison et nous dit qu'on a dû être entendu. Cette phrase, c'est « nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre à ceux qui les exercent, donc par rapport à la pénibilité, de partir plus tôt, ce que nous demandons dans la tribune. » Et la fin de la phrase est aussi importante, sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise, ce qui va d'ailleurs à l'encontre de ce qu'avait dit le Premier ministre, disant que la pénibilité devait être ouverte aux régimes spéciaux et aux fonctionnaires. Là, le président de la République va beaucoup plus loin. Suivant la pénibilité, suivant la dureté des métiers que l'on a pu faire, on pourra partir plus tôt. Ce qui veut dire, de fait, que c'est pour nous, en tout cas théoriquement, la fin d'un âge pivot. En tout cas, d'un âge pivot pour tous. Là, on est plutôt sur un âge d'équilibre qui serait variant, suivant effectivement les parcours de chacun.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Et en plein conflit sur cette réforme des retraites, on apprend que le patron d'un fonds de pension vient d'être promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. Il s'agit de Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, filière française du plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Elle a même fait ses recommandations au gouvernement français dans la loi Pacte à propos de la réforme de l'épargne retraite. De quoi alimenter les soupçons de collusion. La réforme à venir est en tout cas une opportunité pour ce fonds de pension. Marie Viennot l'avait largement expliqué dans sa bulle écho sur France Culture il y a 10 jours. Un article fourni, argumenté, à retrouver sur franceculture.fr. Décloisonner les institutions pour gagner en efficacité. Voilà l'un des credos du gouvernement et cela s'applique en ce début d'année au service des stupes. L'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants devient l'OFAST, l'Office anti-stup. Cette nouvelle structure donne une place plus large aux gendarmes, magistrats et douaniers. L'idée, Isabelle Souquet, est aussi d'éviter les collusions, scandales qui ont éclaboussé la lutte anti-drogue ces dernières années.
En octobre 2015, les douaniers saisissent 7 tonnes de cannabis dans les fourgonnettes garées boulevard Exelmans, en plein Paris. Une prise tellement exceptionnelle que le président Hollande viendra sur place saluer leur travail. Cette saisie deviendra pourtant très vite l'exemple des dérives d'un service. À l'époque, les policiers travaillent avec des indics qu'ils suivent au plus près pour pouvoir intervenir pile au moment où commanditaires et revendeurs rentrent en contact, une façon de travailler qui donne de très bons résultats. Mais dans cette affaire, l'enquête montrera que la relation flic-indique a largement dérapé. Le patron des stupes, commissaire aux brillants états de service, sera mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. Il aurait aussi organisé une fausse garde à vue de son plus gros informateur. L'OFAST, qui veut tourner la page de ce type d'affaires, est dirigé par la conseillère justice du directeur général de la police nationale. Elle est secondée par un magistrat. Son numéro 3 est un douanier, preuve de la coopération renforcée des services et de la volonté de mutualiser les effectifs. L'OFAST, avec 150 enquêteurs, coordonnera 16 antennes territoriales. Il s'appuiera sur les CROSS, les cellules de renseignement des stupes, qui vont aussi monter en puissance. Et la tâche est titanesque. Le marché des stupéfiants est le premier marché criminel du pays, estimé à 3,5 milliards d'euros.
Isabelle Souquet. On apprend ce matin qu'une perquisition est menée à Tokyo au domicile de Carlos Ghosn. Cela fait suite à sa fuite au Liban en début de semaine. L'ancien patron de Renault-Nissan, accusé de malversation financière, donnera une conférence de presse mercredi prochain depuis Beyrouth. Et nous apprenions hier que sa fuite avait été préparée par son épouse, exécutée par une société privée de sécurité. Au Liban, son pays d'origine, il n'y a aucun accord d'extradition avec le Japon et aucune poursuite contre lui. Ghosn paraît donc intouchable. Une toile savamment tissée selon Sybille Rixque, interrogée par Aurélien Colli. Elle est analyste pour un groupe d'influence libanais et ancienne journaliste économique.
Il a entretenu un lien avec le Liban et il a presque mis en scène son retour au Liban. Il venait régulièrement pour des conférences. Il a réalisé quelques investissements au Liban dans les secteurs qui sont la banque, l'immobilier, le vin, qui donne une certaine patine. Grâce à sa notoriété, il a donc entretenu des amitiés essentiellement dans les milieux d'affaires, mais aussi dans la bonne société libanaise. Il a des biens ici, il a sa famille ici, en tout cas la famille de sa femme. Il bénéficie d'un certain respect de sa vie privée. Donc oui, si j'étais lui, j'aurais fait le même choix.
8h09 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Sébastien Kurz en Autriche va reprendre son poste de chancelier.
Il a gouverné jusqu'en mai dernier avec l'extrême droite. C'est maintenant une alliance avec les Verts qui lui rouvre les portes de la chancellerie autrichienne. Le conservateur de 33 ans, Sébastien Kurz, a en fait conclu un accord hier soir avec les écologistes. Accord inédit, Ludovic Piétenu.
Ils promettent à la fois de protéger le climat et les frontières, de réduire les impôts tout en rendant la fiscalité plus écologique. Voilà deux lignes extraites du contrat de coalition signé tard hier soir qui scelle cette alliance entre des conservateurs à la ligne politique très libérale et des écologistes ancrés à gauche qui prennent ici la place historiquement dédiée aux sociodémocrates depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une coalition inédite qui avait déjà failli se produire dès 2003, mais les discussions d'alors avaient échoué. Les Verts ont longtemps parlé de ce moment comme d'un traumatisme, avec à l'époque, comme conséquence, le maintien de l'extrême droite au gouvernement. 16 ans plus tard, cette même extrême droite, alliée aux conservateurs de Sébastien Kurz dans le précédent gouvernement et pourtant affaiblie électoralement par les scandales, était une fois encore en embuscade. Mais cette fois, les écologistes, portés par un résultat record de près de 14%, ont fait un choix pragmatique. Ils ont pris le temps nécessaire, 3 mois, pour discuter avec leur futur allié et, sans totalement se renier, atténuer au maximum les énorme différence de vue entre eux et les conservateurs sur des sujets comme l'immigration ou la politique économique. Le chef de file des conservateurs a qualifié cet accord d'excellent. « Nous sommes parvenus, disait-il hier soir, à réunir le meilleur des deux mondes. Ce tandem n'a rien d'évident, mais dans la durée, les Verts misent sur la démocratie parlementaire qui oblige chaque partenaire à des compromis. »
C'était Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture à Berlin. Penchons-nous à présent sur un gazoduc sous-marin, l'un des plus profonds du monde. Il s'appelle EastMed, c'est un projet en tout cas, qui ferait 2200 km de long de la Méditerranée orientale jusqu'en Italie. L'accord définitif pour valider ce projet doit être signé aujourd'hui entre la Grèce, Chypre et Israël. Mais la Turquie veut tout faire pour l'annuler. Eric Biegala nous explique pourquoi.
Le gazoduc EastMed devra acheminer vers l'Europe les milliards de mètres cubes de gaz des gisements découverts ces dernières années en Méditerranée orientale, au large d'Israël, de l'Égypte et surtout de Chypre. C'est là que le bât blesse. Car depuis les premières découvertes des gisements chypriotes en 2010, la Turquie, qui occupe militairement le nord de l'île où une république turque de Chypre Nord a été proclamée, revendique de pouvoir elle-même prospecter la zone offshore et à terme d'en exploiter les gisements. Elle n'hésite pas à envoyer ses navires d'exploration et de forage, escortés de navires militaires dans les eaux chypriotes pour y défendre ce qu'elle considère comme son droit. Quant au gazoduc EastMed, Ankara a décidé de s'y opposer en signant, fin novembre, un protocole d'accord avec le gouvernement libyen quant aux zones économiques exclusives des deux pays en Méditerranée. Des zones qui se partagent la Méditerranée en deux, du nord au sud, font fi des zones économiques exclusives de la Grèce et même de l'Égypte, et permettent surtout au président Erdogan d'annoncer qu'il s'opposera ainsi à tout gazoduc transitant par la nouvelle zone économique exclusive turque. Le risque d'escalade n'est pas mince. Quelques jours plus tard, début décembre, un navire de prospection israélien travaillant pour Chypre était expulsé des eaux chypriotes par la marine turque. En réponse, les chasseurs israéliens harcelaient un navire de forage turc le 15 décembre dernier. Quant à l'Union européenne, qui serait le principal bénéficiaire et sans doute le principal financeur de ce gazoduc EastMed, elle a bien, en réponse au forage turc dans les eaux chypriotes suspendues cet été, quelques enveloppes budgétaires destinées à la Turquie et évoque d'éventuelles sanctions contre ses dirigeants, mais n'a pas fait mine pour le moment d'aller plus loin.
Des villes entières sont évacuées en ce moment à l'approche d'un nouveau pic de chaleur en Australie. Cela favorise la progression des immenses incendies. Des milliers de touristes ont donc 48 heures, pas plus, pour quitter certaines zones sur la côte sud-est du pays. Les feux ont provoqué la mort d'au moins 8 personnes ces deux derniers jours. En Suisse, le climat est plus clément et heureusement la forêt ne brûle pas. Elle est même utilisée comme terrain de jeu par des enfants de 2 à 6 ans. Une crèche, l'équivalent d'une école maternelle en France, une crèche accueille une trentaine d'enfants près de Genève. Un concept qui séduit énormément et notamment notre correspondant Jérémy Lanche qui a rencontré les chanceux enfants.
Je crois que j'ai trouvé un champignon qui s'est planté là-dedans.
Oui, ça c'est un champignon.
C'est du bleu. Ça fait joli.
Les températures sont encore relativement douces dans la campagne suisse en ce début d'hiver. Ruben et son ami Ernest peuvent donc essayer de débusquer encore quelques champignons ou bien terminer la construction de leur cabane en bois. Dans la nature, ce ne sont pas les activités qui manquent. Charles de Planta est le responsable de la crèche en forêt.
On peut parler du miel, par exemple, des abeilles. On peut autant avoir des livres, on peut présenter du miel, on peut goûter du miel, on peut aller se balader un peu plus haut, il y a des ruches. Donc on peut aller les observer, donc on arrive à faire des activités avec plusieurs pans du développement qui sont représentés, et ça c'est très très riche.
Ici la météo est vue comme une variable, pas du tout comme un problème. Chaque saison amène son lot d'activités. Chloé Protet est l'une des animatrices.
Ils ont tout l'environnement pour pouvoir se développer et dépasser des défis que forcément un espace à l'intérieur offre moins. Moi j'ai toujours une petite sensibilité quand il y a un enfant qui m'a demandé plusieurs fois le nom d'une plante, d'un champignon, de quelque chose et puis qui va expliquer après aux autres. Ça les fait grandir.
Les éducateurs l'assurent, dans la nature, les enfants se développent mieux et plus vite. Un constat partagé par Nathalie, la maman de la petite Anita.
Elle avait un petit côté Pierre Richard. Et c'était pas le froid que je craignais ou les intempéries, c'était plutôt qu'elle se fasse mal. Mais en fait, j'ai bien remarqué très vite que la manière de se mouvoir dans l'espace a changé depuis qu'elle est à l'éco-crèche. Elle s'est ouverte.
Une centaine d'enfants sont inscrits sur liste d'attente. L'association à l'origine de la crèche espère maintenant ouvrir une école en forêt cette année à Genève.
Et ce peut être un temps à aller en forêt ce jeudi 2 janvier en France métropolitaine. Le soleil se fait une place sur la moitié sud du pays. Au nord de la Loire, les pluies matinales devraient s'estomper dans l'après-midi, laissant tout de même de gros nuages. Il fait moins 1 degré ce matin à Strasbourg, 1 à Lyon, 5 degrés à Bordeaux, 6 à Paris et 9 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 8h15 sur France Culture, où on peut tout à fait aller se balader en forêt pour parler politique. Non, si je vous dis ça, c'est parce que notre invité Pierre Charbonnier publie Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques. Et on va évoquer avec lui la manière dont précisément la question politique en Australie, par exemple, dont il a été question, mais même de manière très concrète avec, par exemple, la question de la réforme des retraites et des différentes grondes qui ont été au cœur de l'actualité en France, comment celle-ci s'articule avec la pensée écologique. Et puis, il y aura dans quelques instants un billet politique avec vous, Frédéric Saïs. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Frédéric, Emmanuel Macron demande au gouvernement de trouver un compromis rapide quant à la réforme des retraites.
Oui, retour au format classique du billet politique ce matin et le président de la République qui prend ses distances avec son premier ministre. On va tenter de comprendre pourquoi.
Eh bien, dans quelques instants, dans 30 minutes, vous retrouverez la théorie culturelle de Mathilde Serrel. Elle évoquera le Joker et puis Aurélien Bélanger qui, dans sa conclusion, évoquera, lui, les neurosciences. 8h16.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Les éditions Radio France présentent L'Insoumis de Judith Pérignon. Le nom de Mohamed Ali évoque à lui seul le combat des hommes. Revivez les grands moments de la vie et de la carrière du boxeur. Plongez dans les souvenirs de ceux qui l'ont accompagné en plein cœur d'une époque rêveuse et de la révolte noire. Le ring était son sanctuaire, Malcolm X son ami. Un livre qui dresse le portrait d'un homme, sa grande traversée de l'histoire. L'Insoumis de Judith Pérignon, un livre France Culture.
8h17. Le billet politique, Frédéric Saïs, Édouard Philippe est-il en train de devenir un fusible?
Oui, autrement dit, est-il destiné à sauter pour protéger Emmanuel Macron? Depuis le début du quinquennat, les deux hommes assurent qu'il n'en est rien, que ce type de relation entre un président et son premier ministre appartient au passé, qu'il n'y a pas entre eux l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Et pourtant, on a de quoi se poser la question. Écoutez cette petite phrase extraite des vœux d'Emmanuel Macron.
J'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler.
Alors cette phrase, elle change tout. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle place désormais explicitement la responsabilité sur les épaules d'Édouard Philippe. Jusqu'ici, les blocages, les tensions étaient présentés comme relevant uniquement des syndicats irresponsables, politisés, nous disaient même les ténors de la majorité. Désormais, avec ces mots d'Emmanuel Macron, la sortie de crise est donc une responsabilité partagée. Mais arrêtons-nous un instant plus en détail sur les termes employés ici par le président. Le mot « compromis », d'abord, il annonce clairement que la version actuelle de la réforme ne peut pas rester en l'état, que le Premier ministre, qui a présenté lui-même les arbitrages devant les caméras, doit maintenant bouger, évoluer et donc, en un sens, se renier. Mais ce n'est pas le seul terme important. « Compromis rapide », insiste Emmanuel Macron. En sous-texte, il exclut désormais le pourrissement. Il rejette la stratégie qui consisterait à réunir pendant des semaines les organisations syndicales sans rien bouger, juste pour la photo et pour le plaisir d'annoncer que des concertations sont à l'œuvre. Rapide aussi, bien sûr, parce que les municipales arrivent au mois de mars et on imagine mal La République En Marche triompher si le pays est encore à l'arrêt. Voilà pourquoi c'est donc une pression substantielle qu'a mis Emmanuel Macron sur Édouard Philippe.
Pourtant, c'est bien Emmanuel Macron qui avait promis ce système de retraite à points. Alors à quoi joue le président de la République ?
Eh bien, quelle que soit la suite des événements, il se protège. Deux solutions. Si un accord est finalement trouvé, si le conflit se résorbe, il apparaîtra comme celui qui a mis de l'huile dans les rouages au lieu d'en mettre sur le feu de la contestation. Il se présentera comme le président humain, sous-entendu, bien plus que son Premier ministre jusque-là, droit dans ses bottes. Si les concertations échouent, que le mouvement perdure, voire s'aggrave, alors Emmanuel Macron pourra dégainer un remaniement et remplacer Édouard Philippe, le remplacer au motif qu'il n'est pas parvenu à trouver ce fameux compromis rapide. Ce serait une manière pour le chef de l'État de dévier l'impopularité de la réforme sur son Premier ministre et de reprendre de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle un fusible. Alors la méthode n'est pas nouvelle. François Hollande l'avait pratiquée avec Jean-Marc Ayrault, Jacques Chirac en avait fait de même avec Jean-Pierre Raffarin. Mais on peut même remonter plus loin, Guillaume, au XIVe siècle, en Italie pour être précis. Non. Et c'est Machiavel qui raconte cet épisode. Nous sommes dans la région de la Romagne que César Borgia vient de conquérir, mais le désordre règne, alors Borgia nomme un certain Ramiro d'Orco pour mater les éléments indisciplinés. Ramiro d'Orco qui était connu pour être brutal et expéditif, il accomplit son œuvre, il rétablit l'ordre, non sans attiser au passage la colère de la population. Or, que fait immédiatement César Borgia ? Eh bien, il tue celui qu'il avait nommé et il fait exposer son cadavre en public pour regagner les faveurs des habitants de la Romagne. Je vous lis les mots de Machiavel. « Sachant que la rigueur d'abord exercée avait excité quelques haines et désirant éteindre ce sentiment dans les cœurs, le duc, César Borgia, voulut faire voir que si quelques cruautés avaient été commises, elles étaient venues non de lui, mais de la méchanceté de son ministre. » Cet extrait du chapitre 7 du Prince. À l'époque, on exposait la carcasse sanglante. Aujourd'hui, on appelle cela un changement de gouvernement.
Merci beaucoup. Frédéric Seyss, on retrouve votre billet politique et bien sur le site de France Culture, bien entendu, où on peut le réentendre. Il est 8h21.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous retrouvons notre invité, le philosophe Pierre Charbonnier. Vous publiez Abondance et Liberté aux éditions de La Découverte. C'est une histoire environnementale des idées politiques, si l'on suit le sous-titre. Mais précisément, depuis quelques jours, quelques semaines, devrais-je dire, en France, l'actualité écologique passe un peu au second plan, car ce qui prime avant tout, c'est cette réforme des retraites et le mouvement social qu'elle a suscité. Auparavant, il y avait eu les gilets jaunes, bien sûr. Comment articulez-vous, Pierre Charbonnier, la manière dont ces crises sociales font passer au second plan la crise écologique ?
Alors moi, je ne pense pas du tout que la crise écologique passe au second plan. Disons, dans le langage que vous, les journalistes, utilisez chaque jour, ça a l'air de passer au second plan. Mais une réforme des retraites, c'est une modification en profondeur de la façon dont on envisage l'avenir et la solidarité intergénérationnelle. La grève dans les transports, c'est fabuleux à quel point ça révèle comment l'organisation de nos sociétés est tributaire d'infrastructures matérielles et comment la demande de justice, de droit, d'égalité passe par ces infrastructures matérielles. J'ai été frappé de voir il y a quelques jours une déclaration, je crois que c'est un des candidats à la mairie de Paris qui dit « On va rendre plus de lignes de métro automatiques parce que comme ça, les grèves auront moins de prise sur les transports. Ça c'est fabuleux pour moi, parce que ça révèle que pour exercer des demandes de justice sociale, il faut avoir des appuis matériels, et les systèmes de transport en sont un excellent. Le système productif en était un encore meilleur, mais on n'en a presque plus, en tout cas ici même. Et donc, vous voyez, la façon dont on organise simplement, de manière très triviale, une ligne de métro, est-ce qu'il y a un pilote ou est-ce qu'il n'y a pas de pilote, c'est déjà très politique, et c'est lié à la façon dont on utilise des ressources, de l'espace, et dont on articule les demandes de justice à ces choses-là.
On va revenir à cette question des systèmes de transport, mais alors prenons l'autre crise sociale que la France a traversée, celle des Gilets jaunes. À l'origine, il y avait une question, celle du prix des carburants. Alors ça, c'est une question qui intéresse la pensée écologique, bien entendu, Pierre Charbonnier.
Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'on a assez vite oublié le déclencheur de cette crise, mais effectivement, vous le rappelez bien. Alors, bon, les Gilets jaunes, ça a été un moment particulier pour les gens qui font des sciences sociales. Parce que chacun y est allé de son interprétation, moi aussi d'une certaine manière. Il se trouve qu'effectivement, cette crise-là a bien montré qu'une partie importante de la population française ne pouvait plus n'arrivait plus à placer ses espérances dans le schéma socio-économique classique hérité des Trente Glorieuses, de l'accession à une meilleure condition par la protection via des diplômes, via des plans de carrière progressifs, mais aussi via l'appui justement sur des infrastructures matérielles, notamment l'automobile, quand il y a un des symboles principaux, et que il y avait une sorte de mur qui s'opposait à ces demandes d'égalité, de liberté. Et donc là, ça provoque des choses très profondes dans la société. Malheureusement, on pourrait estimer aussi que la réponse à cette crise du côté du front écologique n'a pas été suffisante, a été quand même assez largement décevante, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que les tenants de l'écologie politique en France et en Europe disent « Ben voyez, c'est exactement sur ce point que nous, on veut agir, on veut libérer, on pourrait attendre d'eux qu'ils disent ça, nous essayons de libérer la structure économique de nos nations de cet impératif de croissance, de compétition, de performance, et essayer de faire des politiques de solidarité au lieu de faire des politiques de concurrence. » Je ne sais pas si ça aurait parlé à tous les Gilets jaunes, parce que dans ce mouvement, évidemment, il y a des profils sociaux et des attentes qui sont assez différentes. C'est pas du tout unifié. Même les mouvements syndicaux, d'ailleurs, ne le sont pas. Mais au moins, nous aurions peut-être pu voir comment l'écologie pouvait avoir prise sur des mouvements sociaux qui, apparemment, ne sont pas des mouvements écologiques.
Bon, mais alors, je reviens aux faits générateurs. Pour une partie d'entre eux, en tout cas, ces Gilets jaunes étaient des habitants du périurbain. Autrement dit, ils habitent plutôt loin de l'endroit où ils travaillent et donc ils ont besoin d'une voiture. Et cette voiture requiert, jusqu'à présent en tout cas, des carburants fossiles et, en l'occurrence, du diesel, puisque c'est cela qui a fait débuter cette gronde. Comment essayer de trouver une solution? C'est un peu la quadrature du cercle. On a un habitat qui n'a pas été planifié, qui en tout cas a été développé sans le secours des transports collectifs. Quelle solution trouver? Est-il possible de ménager l'écologie et la politique, en l'occurrence, Pierre Charbonnier?
Bien, de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on veut répondre en même temps à des demandes de justice et à des impératifs écologiques, en fait, qui nous imposent de freiner notre utilisation d'énergie, il faut qu'on arrive à les articuler et qu'on fasse les deux en même temps. Sur la question, de la ville, des transports, je pense que c'est pas que c'est absolument simple, mais disons, permettre au plus grand nombre de vivre plus près de leur lieu de travail, et donc de dépenser moins dans les transports, de se lever moins tôt le matin, en fait, de bénéficier de qualité de vie, ça devrait être un objectif, disons, on pourrait dire transpartisan, mais il y a des intérêts bien compris qui font entrave à ce genre de politique-là. Mais voyez, la mutation urbaine est tout de même assez facilement disons, on peut la traduire assez facilement, à la fois dans le langage de la justice sociale et dans le langage de l'écologie.
Bah, vous me semblez bien optimiste, parce que fut un temps, on essayait de mettre les villes à la campagne. Maintenant, vous voudriez mettre les campagnes à la ville. En tout cas, cet habitat dispersé, pour le rapprocher des villes, il va falloir imaginer des solutions qui, aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas véritablement accessibles.
Oui, mais voyez, j'ai vu il y a quelques jours que Elon Musk proposait de construire
le patron de Tesla, proposait des automobiles électriques,
des immenses tunnels souterrains sous, en l'occurrence en Californie, pour décongestionner les autoroutes urbaines et donc fluidifier le trafic sans se poser la question du transport public, de la transformation de l'habitat. Et du coût que ça peut représenter en termes écologiques aussi, d'aller encore forer dans des sols. Donc vous voyez, l'espèce de délire d'imagination technologique que suscite la volonté de ne pas changer les pratiques collectives, c'en est un bon exemple. Alors que un transport collectif gratuit, et l'opportunité offerte via toutes sortes d'incitations à chacun de vivre plus près de son lieu de travail, c'est à la fois plus simple, plus juste, plus économe, mais il y a des obstacles à lever.
Oui, mais la voiture était aussi une promesse d'autonomie. J'utilise ce mot parce que c'est un mot qui est très important dans votre lecture de l'évolution de la pensée politique et économique dans votre livre « Abondance et liberté ». Le fait d'avoir une voiture est un choix qui permet, bien entendu, une autonomie complète par rapport aux autres contraintes de transport, Pierre Charbonnier. Et c'est pour ça que ce choix est aussi cohérent avec une certaine idéologie ou un certain esprit de l'époque, disons.
Oui, alors l'automobile, effectivement, a été le symbole de l'autonomie individuelle, pas de l'autonomie collective. Mais c'est très tardif, c'est après la Seconde Guerre mondiale, et après, en fait, la période où le pétrole était à la fois abondant et très bon marché, qu'on peut dire les formes dominantes de subjectivité ont été construites par l'automobile comme véhicule, véhicule au sens trivial, mais aussi comme véhicule de ce sens de l'autonomie personnelle. Mais le problème, c'est qu'en faisant croître l'autonomie individuelle, on faisait décroître l'autonomie collective, c'est-à-dire des formes de coexistence plus intégrées, qui étaient, elles, pour le coup, bien emblématisées par le train, le tramway dans les villes, hein, qu'on a ensuite retiré pour faire place aux automobiles. Donc, vous voyez, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment toujours des formes technologiques, des manières de se rapporter à l'espace, au territoire, sont imbriquées dans des conceptions des libertés individuelles et collectives. Et je pense que l'impératif écologique est de nature à nous faire réviser cette adéquation entre notre sens de la liberté et un objet comme l'automobile.
Et alors, si on essaye de réviser cette articulation, comment imaginer autre chose qu'une fuite en avant dans la technologie? Parce que vous évoquiez Elon Musk, qui est donc un fabricant d'automobiles. Donc, nécessairement, il va trouver des solutions qui sont très éloignées des services publics, très éloignées des communs. Or, vous évoquez la possibilité de rendre les transports communs, mais tout cela pourrait passer par une sophistication de la technique. Est-ce que ça veut dire que la solution aux problèmes écologiques sont des techniques qui seraient de plus en plus sophistiquées, Pierre Charbonnier?
Alors, cette question de la technique, elle est importante quand on essaie de penser l'écologie, mais moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est, comme on dit parfois, technophobe. Et d'ailleurs, je suis pas non plus technophile. Ce que je pense, et il y a dans le livre un chapitre là-dessus, qui est un chapitre sur ce qu'on appelait dans les années 30 la technocratie. En fait, la technocratie, c'est une critique radicale de l'économie capitaliste qui dit que, contrairement à ce qu'on pense très souvent, c'est un système économique à l'intérieur duquel la technologie a été rétrogradée, n'a pas servi de norme à la construction des relations économiques, parce que contre elle, s'est construit... En fait, la reconstitution du pouvoir des élites oisives sous la forme des élites de marché. C'est-à-dire, on a optimisé l'économie pour produire un rendement pécuniaire pour les investisseurs, mais pas du tout pour, en fait, optimiser le réglage fin des relations entre un collectif humain, son appareillage, son exosquelette technologique est les ressources minières, agricoles, l'eau, etc. Et la technocratie, c'était ça. Dans les années 30, c'était essayons d'optimiser ces relations matérielles et pour y arriver, il faut faire la guerre au pouvoir des investisseurs. Autrement dit, c'est vraiment une critique radicale du capitalisme. Donc il y a des sources de ça. Au 19e siècle, en France, c'est Saint-Simon. Dans les années 30, aux États-Unis, c'est Thorstein Veblen, qui est un économiste et sociologue un petit peu oublié. J'ai essayé de ressortir des cartons parce que je pense qu'il est aujourd'hui très pertinent. Et je pense que l'écologie politique, aujourd'hui, doit se réclamer d'une certaine manière de cette technocratie. Bon, alors, le mot n'a plus du tout le sens qu'on lui donne habituellement, hein, qui est très péjoratif. Et je pense qu'il y a des gens qui le font très bien. Par exemple, les gens de l'Institut Negawatt qui font des scénarios très précis pour essayer de nous montrer comment une transition énergétique de sortie des fossiles peut entretenir un système économique à la fois plus sobre et plus juste. Je pense que les gens qui font de l'agroécologie sont des gens qui pensent de manière technique le rapport au sol, ce qui ne veut pas dire qu'ils cherchent obstinément des gains de productivité par l'ajout de composants chimiques ou par les OGM. Donc la technique, elle est en fait ni notre ennemi, ni notre ami. Simplement, elle est un des outils qui permettent de mieux agencer notre coexistence avec des ressources, avec d'autres vivants. Et il ne faut surtout pas s'en priver.
Alors ça, c'est pour la question de la technique. Ensuite, il y a la question de la production et de la productivité. Si je souhaite l'aborder, c'est parce qu'il y a dans votre livre, Pierre Charbonnier, une réflexion sur la manière dont l'écologie et la politique peuvent se conjuguer. La pensée de gauche, la pensée marxiste, elle a souvent été productiviste. Est-ce que l'on peut imaginer aujourd'hui de prendre ce socle qui a été pensé notamment avec Marx, pour une société qui serait une société qui tournerait le dos à ce productivisme-là ?
Alors, l'une des questions de mon livre est de savoir en quoi nous sommes les héritiers de ce mouvement de justice sociale et en quoi nous ne le sommes plus tout à fait. Alors, si on prend Marx comme le repère principal de la critique de l'organisation capitaliste de l'économie, on est dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que Marx avait très bien compris la situation de l'économie politique libérale qui promettait de convertir l'abondance en liberté par les seuls instruments du marché. Il a vu que ça ne fonctionnait pas, que ça créait de la misère, hein, c'est la loi des reins des salaires des économistes anglais. Il a vu que ça produisait des encombrements matériels, c'est-à-dire on monopolise artificiellement certaines ressources pour en faire monter le prix. Et il a vu aussi que ça désorganisait des rapports de solidarité sociale, notamment dans les campagnes. Mais ce qu'il a vu aussi, c'est que la promesse de la conquête de l'autonomie par l'abondance était quand même une richesse inestimable et que si le sujet politique qu'est le prolétariat savait s'organiser sur la base de sa maîtrise du processus productif, eh bien la téléologie historique de l'émancipation du peuple allait pouvoir se réaliser sur la base de ce socle productif. Donc, vous voyez, la relation productive, elle n'a pas du tout été inventée par le marxisme ou par l'anticapitalisme, mais elle a été mise à profit par les luttes subalternes pour faire aboutir leurs demandes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, et c'est pour ça que je dis, je crois, quelque part dans le livre, qu'il faut faire Marx sans la relation productive. Nous sommes dans une
situation. Qu'est-ce que ça veut dire, justement ? Voilà. Il faut Marx sans la production.
Nous sommes dans une situation où nous devons, je considère que nous devons être les héritiers de ces demandes de justice qui s'étaient formulées dans le socialisme au 19e siècle, dans le contexte de la construction d'une société industrielle, mais que l'impératif écologique est tel que nous devons le faire en quittant la base productive, qui était tout de même considérée par Marx comme le socle de la conquête de l'abondance, de l'autonomie collective.
Oui, c'est-à-dire que la pensée marxiste, je ne parle plus de Marx, mais de l'utilisation qu'on en a faite, y compris d'ailleurs la pensée syndicale française, était une pensée très productiviste, très prométhéenne, qui considérait que en produisant plus, eh bien, on pouvait réussir à autonomiser les masses laborieuses, mais pas seulement, bref, qu'il y avait.
Et c'était vrai. Et c'était vrai. La mise en forme du droit social entre la fin du 19e siècle et la presse Seconde Guerre mondiale est absolument indissociable d'une alimentation de l'économie par le charbon, puis par le pétrole, et ensuite le financement de le modèle social est impossible sans un très très haut niveau de croissance et de fluidification des échanges par le pétrole. Aujourd'hui, dans une situation où il faut on pourrait dire accélérer le freinage, c'est-à-dire il faut aller plus vite dans la transition écologique, et en fait même dans le retranchement de certaines énergies de notre mix, de notre mode de vie, mais il faut le faire en préservant la chance de tous, on pourrait dire de survivre, même en fait de vivre le mieux possible ou le moins mal possible. Et ça, je pense que nous en avons les moyens. Nous avons d'abord les moyens institutionnels et technologiques d'organiser la fin de la dépendance à l'égard des énergies fossiles, par les renouvelables, mais pas seulement, par aussi des économies, tout simplement. Rénovation du bâti, rapprochement, je vous disais tout à l'heure, de lieux d'habitat, des lieux de travail, etc. Mais nous en avons aussi les moyens, on peut dire, idéologiques, institutionnels, pour réinventer des formes de coopération liées, par exemple, à de nouveaux usages des terres, comme c'est le cas, ça a été expérimenté à Notre-Dame-des-Landes, de mise en commun de certains appareils électroménagers, certains appuis pour les transports. Mais ça, ce sont de nouvelles formes de subjectivité qui doivent émerger. Ça prend beaucoup de temps, ça prendra probablement plus de temps que les 10-15 ans qui nous sont impartis pour arriver à une neutralité carbone. Mais c'est le grand chantier de ce que doit être l'équivalent contemporain de ce qu'a été le mouvement social au XIXe siècle.
8h40, nous recevons Pierre Charbonnier, philosophe dans les matins de France Culture. Vous publiez Abondance et Liberté. C'est une réflexion extrêmement ambitieuse sur la manière dont l'écologie et la politique s'articulent. C'est un livre publié aux éditions de La Découverte. Or, il est question aujourd'hui de survie de l'humanité. Alors, de survie, par exemple, en Australie, où on a affaire à des évacuations massives face aux incendies. Il y a déjà eu des morts. 8 personnes sont mortes suite à ces incendies qui sont notamment lié au réchauffement climatique, parce que l'on considère que la sécheresse, que les vents, sont des causes de ces incendies. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Charbonnier, non seulement ces incendies, mais de ces catastrophes qui semblent aujourd'hui égrener l'actualité et être la conséquence directe ou indirecte du réchauffement climatique?
D'abord, sur l'Australie, c'est quand même une histoire dramatique, mais en quelque sorte fabuleuse aussi. L'Australie, c'était l'exemple type au XVIIe, XVIIIe siècle de ce qu'on appelait la terra nullius, c'est-à-dire une terre qui n'appartient à personne. Et comme elle est réputée n'appartenir à personne, parce qu'évidemment on faisait peu de cas des populations aborigènes, elle était réputée libre pour la conquête, l'installation de migrants blancs, et la réplication, si on veut, du modèle britannique sur de nouvelles terres. Mais ça, au prix d'une modification profonde des terres, d'une modification évidemment profonde de la population résidente. Et aujourd'hui, l'Australie est un des principaux producteurs de charbon, et le gouvernement actuel est le garant du modèle de développement économique sur la base du charbon de ce pays-là. Et il se trouve que c'est aussi l'un des pays les plus fragiles écologiquement, parce que très sec, pour des raisons climatiques, et qui s'aggravent avec le changement climatique. L'Australie, c'est aussi le pays hôte de la Grande Barrière de Corail, qui est un des hotspots de perte de biodiversité. Donc l'Australie, c'est magnifique, parce que c'est un symbole à la fois des racines conquérante et extractive du modèle d'économie et de peuplement de la modernité, mais c'est aussi un des premiers, une des premières régions du monde qui est en train de tomber, on pourrait dire. Ces feux sont gigantesques, sont dramatiques, et vous dites 8 morts, c'est assez peu. 8 morts, c'est moins de morts que dans un accident de bus grave, mais à la limite, ce qui est plus grave, c'est toutes ces populations qui se déplacent, tous ces gisements de biodiversité qui disparaissent. Et donc là, c'est rentrer dans l'année 2020, dans la nouvelle décennie, avec d'un côté l'alliance entre les conservateurs et les écolos en Autriche, les feux en Australie, on est tout de suite dans ce que la réalité a de plus hard.
Qu'est-ce que l'on peut faire face à ces catastrophes lorsque l'on considère qu'on a affaire, en Australie par exemple, à une conséquence du réchauffement climatique? Pierre Charbonnier, qu'est-ce que l'on peut tenter de penser, là comme vous l'avez évoqué, c'est l'histoire de l'Australie qu'il faut reprendre en quelque sorte à l'envers.
Alors effectivement, bon, quand on est un chercheur comme moi, un auteur, ce qu'on peut faire, c'est écrire des livres pour expliquer au plus grand nombre possible de gens d'où viennent ces pathologies et quel type de prise intellectuelle on peut avoir sur elles, de manière plus empirique, plus immédiatement politique. Je pense que notre plus grande espérance peut venir de l'alignement d'intérêts entre plusieurs groupes sociaux habituellement distincts les uns des autres. Par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure les expérimentations écologiques, territoriales, des militants de Notre-Dame-des-Landes, et tout ce grand peuple dont les aspirations écologiques aujourd'hui sont centrales. Il y a aussi ce grand peuple pour lequel les aspirations à la justice économique commencent à se retraduire aussi dans des termes écologiques. C'est le cas des gilets jaunes notamment, on en parlait tout à l'heure. Et il y a des processus de politisation de certains gilets jaunes qui vont dans ce sens-là. J'espère que ça va se confirmer. Par exemple, Priscilla Ludowski en est un excellent exemple. Elle a un rôle important à jouer. Et puis, il y a un autre peuple qu'on oublie parfois. C'est le peuple des élites technocratiques, bureaucratiques de l'Union européenne, mais aussi en France, qui commencent à comprendre qu'en fait, le modèle de développement économique dont ils étaient les garants ne garantit plus rien, et qu'il faut en changer, et que parmi eux, espérons des gens de bonne volonté qui vont aller taper aux portes des banques centrales, des grandes banques, des grandes entreprises de l'agronomie, de l'énergie, et qui vont aller taper très fort à leurs portes pour leur dire cette fois, ça n'est plus possible. Et si l'alignement d'intérêts et de pratiques politiques, pratiques de socialisation entre ces trois grands peuples se réalise et se réalise sans trop tarder, alors je pense qu'on va réussir à se garder des conséquences les plus dramatiques, mais faut être lucide aussi. Les feux de forêt en Australie, ça c'est le monde à plus 1 degré, à 410 par million de gaz à effet de serre. Là, la trajectoire nous montre qu'on va avoir du mal à être en dessous de 2,5, 450, 460. C'est vraiment un tout autre monde. Il y a des régions entières qui vont être bouleversées avec leur population. Ça, moi, je fais pas de prévision, mais le choc va être très difficile à encaisser. Et nous, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, nous n'arriverons à l'encaisser que si nous sommes en mesure de préserver des institutions démocratiques.
Et si c'était la fin du monde, par exemple, alors je dis ça le 2 janvier, et de manière tranquille, mais certains le disent de manière plus articulée, Pierre Charbonnier, qu'est-ce que l'on peut faire face à la fin du monde, dans ce cas-là, comme le pensent les collapsologues, si tout était fichu?
Mais c'est déjà la fin du monde, en fait. C'est pour ça que...
C'est une bonne nouvelle.
L'argument collapsologique, il est lui aussi en porte-à-faux par la réalité. C'est déjà la fin d'un monde. Et puis, ça dépend où nous vivons. Les infrastructures, d'approvisionnement alimentaire, énergétique, vont pas cesser de fonctionner d'un jour à l'autre. Mais dans d'autres régions du monde, elles n'ont jamais vraiment existé. Faut quand même pas oublier. Donc, l'idée que nous devrions sauter à pieds joints brutalement dans le monde de l'après-catastrophe, c'est une simplification vraiment de la réalité écologique et politique. Donc c'est pour ça, moi...
Comment expliquez-vous, malgré tout, la vogue de survivalisme, puisque la collapsologie, donc cette discipline, je ne sais pas d'ailleurs si on peut vraiment appeler ça une discipline, en tout cas, ce type de discours qui consiste à dire que de toute façon, c'est la fin des temps et qu'il faut tenter de s'adapter à cette fin des temps, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre Charbonnier?
C'est très difficile de se prononcer parce que
vous l'avez fait dans un article, disons, publié dans la revue.
Le problème, c'est que
depuis
que j'ai écrit ce texte, les tenants de la collapsologie ont beaucoup changé de position, parce que toutes les critiques qu'on leur fait, moi, mais aussi d'autres camarades, d'autres collègues, les collapsologues nous répondent toujours oui, mais en fait, on est d'accord avec vous, on y avait pensé. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de changer de position. Et tant mieux.
Ça veut dire aussi que c'était pas un discours extrêmement précis.
Mais c'est pas grave. Il y a toujours des réactions un peu bizarres à des phénomènes sociaux dramatiques. Donc, si parmi les gens qui ont été, dont l'imaginaire politique, dont les affects ont été captés par le discours collapsologique, si parmi eux il y a des gens qui se tournent soit vers des expérimentations locales, soit vers une politisation vraiment militante. Eh bien, tant mieux. Je pense qu'il y aura aussi parmi eux des gens qui vont se tourner vers un repli, voire une militarisation de l'effort d'adaptation. Tant pis pour eux, tant pis pour nous. J'espère qu'ils ne seront pas trop nombreux. Mais voilà, la collapsologie est le miroir de très nombreuses angoisses contemporaines. Ça, moi, je pense que ça ne donne pas de très bons livres, parce que je suis un spécialiste de la question, je connais un peu la science, que je connais les éléments politiques et historiques. Donc, je pense que c'est, en tant que tel, ça donne pas des très bons livres. Mais ça, à la limite, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est ce que vont devenir les gens dont les affects ont été captés par le discours collapsologique. Moi, j'espère qu'on va les récupérer dans le mouvement, on peut dire, de démocratie écologique radicale. Et évidemment, ils sont accueillis. Mais je suis très curieux de savoir ce que ça va donner.
Mais alors, le survivalisme, parce que c'est pas seulement une question de livre, c'est aussi une question de manière d'envisager l'avenir, avec peut-être là aussi une forme de pensée de plus en plus religieuse, de plus en plus apocalyptique. Est-ce que vous pensez que ça peut provoquer un sursaut ou bien au contraire enfoncer les gens, je ne sais pas moi, dans le désespoir et dans une forme de fatalisme?
Honnêtement, je ne sais pas. Le fait qu'il y ait une dimension religieuse dans la collapsologie n'est pas une spécificité très marquante, parce que on pourrait dire que la question écologique offre des prises aussi, par exemple, aux chrétiens sociaux, hein, qui veulent reconstruire des espaces de coopération sur la base du local. Donc, vous voyez, la régénération de ces types d'aspirations spirituelles, c'est pas spécifique aux collapsologues.
Alors, en tout cas, on peut retrouver tout cela dans la revue de France Culture, la revue papier, où il est question des pensées de la fin du monde. Et puis on peut bien entendu se référer à votre livre, Pierre Charbonnier, Abondance et Liberté, une histoire environnementale des idées politiques, publié aux éditions La Découverte. On se retrouve dans quelques instants, on va entendre la théorie culturelle de Mathilde Serrel et bien entendu la conclusion d'Aurélien Bélanger. Il est 8h49 sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque jour à 16h sur France Culture, Nicolas Martin enfile sa blouse blanche, remonte ses manches et vous propose une heure d'expérience et de réflexion sur les avancées et les problématiques de la recherche scientifique, de l'astrophysique à la paléontologie, de la médecine à l'épistémologie.
À mi-mandat, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, viendra tirer le bilan de l'action du gouvernement en matière de science.
La méthode scientifique avec la ministre Frédéric Vidal, ce jeudi à 16h et sur franceculture.fr.
8h50 sur France Culture, il y a eu une promotion de la Légion d'honneur. Voici quelques extraits des discours ou des chansons de ceux qui ont été promus.
1, 2, 1, 2, 3.
Mimi, cracra, l'eau, elle aime ça.
L'eau, moi j'adore ça, ça dégringole et je rigole.
Mimi, cracra, l'eau, elle aime ça.
Tant pis si ça mouille, je fais des patouilles.
Quelle merveille, merci infiniment. Merci infiniment, quelle joie, merci beaucoup.
Aussi loin que je me souvienne, j'ai l'impression que j'ai toujours habité ce pays-là, de l'étrangeté.
J'adore la découverte et ce métier me permet de découvrir les lois fondamentales de la physique ou découvrir qui nous sommes, où nous allons, d'où on vient.
Sous l'équateur du Brésil.
Voilà, on tenait à vous faire entendre Gilbert Montagnier, mais pas que, Abdelmalik, Gérard Mourou, le prix Nobel de physique, Julia Kristeva, Jeanne Balibar, et puis également Agnès Rosenstiel, qui a notamment créé Mimi Cracra. Tous sont promus pour cette promotion de la Légion d'honneur. Voici maintenant Mathilde Serrel, avec laquelle nous revisitons cette semaine les grandes controverses culturelles de l'année. Aujourd'hui, le phénomène Joker.
Si vous allez voir le Joker de Todd Phillips, vous n'en sortirez pas indemne. Vous contemplerez autour de vous les rues en vous demandant non pas si elles vont s'embraser, mais dans combien de temps. Tandis que le film déclenche une controverse aux États-Unis où il est accusé d'inciter à la violence, ce Joker est en réalité un véritable lanceur d'alerte. C'est ma théorie.
Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un ?
plus en plus la folie.
Qu'est-ce qui te fait rire? Pauvre taré!
Is it just me or is it getting crazier out here? Je me fais des idées ou c'est de plus en plus la folie? La phrase du personnage d'Arthur Fleck, qui n'est pas encore devenu le Joker, à sa psychologue, qui n'a pas encore été virée pour cause de coupes budgétaires dans les services sociaux, résonne avec notre présent. C'est un vertige voulu. Au cœur du système hollywoodien, la Warner, voilà qu'un réalisateur de comédie blockbuster, Todd Phillips, détourne le filon des films de super-héros pour sortir un brûlot dérangeant, devenu le premier film de genre à recevoir le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Car si le Joker, grand méchant de l'univers DC Comics, a longtemps incarné un psychopathe au rire démoniaque poursuivant Batman et consorts avec sa horde d'adeptes détraqués, ce Joker-là est un hybride bien plus ambigu, quelque part entre Taxi Driver, Orange Mécanique et la révolte des Gilets jaunes. Pauvre, handicapé, agressé, humilié, le Joker d'avant le Joker, joué par Joaquin Phoenix, va basculer dans une folie meurtrière et vengeresse à la suite d'une série d'injustices qui ne justifie pas ses actes, mais en font le produit d'une société, et pas seulement américaine. Le produit d'une déréalisation générale, doublée d'une casse sociale. C'est Batman Killing Joke, le comic book d'Alan Moore, sorti en 1988, qui a inspiré au réalisateur Todd Phillips ce Joker, symbole des perdants, des méprisés, des écrasés, figure lointaine du fou des fêtes médiévales, ou des marginaux de Victor Hugo, broyés par le système des puissants. Le système, ce mot vague, est si contemporain, est une expression que l'on retrouve dans le film en écho au récent mouvement de contestation. Et avoir l'insurrection contre la police et les médias, le pillage des magasins et la guerre aux riches qui l'ont bien mérité, quitte à être assassinés, se dessine dans le film en creux la métamorphose d'un climat sur le point de dégénérer. Juan Branco, l'auteur de Crépuscule, s'en est emparé sur Twitter, je cite « The Joker, ode aux luttes insurrectionnelles et aux gilets jaunes en particulier, démarre en trombe au box-office américain, symboliquement, c'est un énorme pas ». Mais le film de Todd Phillips n'est ni une ode, ni une dénonciation. Il tient sur une corde raide, comme le rire involontaire du Joker. Ce n'est pas un appel au soulèvement, mais plutôt une sonnette d'alarme intérieure qui permet à chacun de déclencher sa responsabilité. Martin Scorsese, qui déclarait récemment que les films de super-héros n'étaient pas du cinéma, mais des parcs d'attractions, pourra considérer avec celui-ci une forme hybride, le parc de réflexion.
Merci beaucoup Mathilde Serrel, 8h55 sur France Culture. Aurélien Bélanger, votre conclusion, je vous prie.
Le 20e siècle aurait eu la psychanalyse, le 21e aura les neurosciences, ni plus ni moins. Les deux premières décennies du nouveau siècle ont ainsi péniblement ressemblé à des couvertures du Point, un enthousiasme à liseré rouge et sage pour salle d'attente de médecins spécialistes, le triomphe des neurosciences, les derniers secrets du cerveau, les aliments qui boostent la mémoire. Si je n'ai jamais complètement souscrit à la psychanalyse, sinon comme argumentaire commercial pour architecte d'intérieur, les cabinets de psychanalyse comme premier étage d'un Ikea planétaire aux alcôves remplies de canapés moelleux, la prétendue révolution des neurosciences me paraît largement plus fumeuse. On peut d'ailleurs reprocher à Freud tous les manquements aux règles de la scientificité qu'on voudra. Son œuvre aurait été largement confirmée par l'expérience. Son malaise dans la civilisation de 1930 ressort largement de l'écrit prophétique qui est, d'une certaine manière, la catégorie scientifique la plus haute. On chercherait en vain l'équivalent pour les neurosciences, qui n'ont pour l'heure apporté à l'humanité que des couvertures au Point, des chroniques de Laurent Alexandre, des 20 projets de réforme au ministre de l'Éducation nationale, et Candy Crush, la saga Candy Crush, la plus désolante des conversions des baby-boomers aux joies mécanisées du gaming. Je ne crois pas à la révolution des neurosciences, non pas parce que je crois que les neurosciences soient fausses, d'ailleurs, je crois à la révolution des neurosciences, à ce détail près que je pense qu'elle s'est déjà produite et qu'elle se confond avec l'histoire récente de l'humanité. L'homo sapiens n'est pas autre chose que cela, l'hominidé qui crut aux neurosciences jusqu'à en faire son outil principal. Acquisition du langage, transmission des techniques de la taille de la pierre, implémentation physique d'images mentales dans les dendrites cristallisées des cavernes, invention du politique, du sacré, de la culture et du commerce. Cela fait déjà des dizaines de milliers d'années que nous avons reconnu et exploité les principales caractéristiques plastiques de notre cerveau que nous avons fixé la toile des civilisations à ses affordances chimiques. L'école de demain ne sera jamais qualitativement meilleure à celle d'aujourd'hui. Cela fait trop longtemps qu'on déblaye la galerie de la grotte, qu'il y a peu de chances qu'on n'y découvre jamais une nouvelle galerie, ou bien ce sera une galerie artificiellement salée et recouverte par les gemmes acidulées de Candy Crush. Il y a plus à comprendre dans un chapitre de l'idiot de Dostoïevski que dans les données cumulées de toutes les IRM du monde, car l'idiot de Dostoïevski résume des millénaires d'expérience mieux que tous les méta-articles des chercheurs en neurosciences. Les progressistes voudraient pourtant que le triomphe des neurosciences soit l'opération de désaliénation ultime, comme quand elles ont montré que le sucre, objet probable d'un complot industriel, était aussi addictif qu'un opiacé quelconque, et on a inventé aussitôt Candy Crush pour réussir à s'en sevrer. Les progressistes voudraient qu'on utilise les neurosciences pour améliorer les apprentissages et devenir plus heureux. J'ai passé des journées entières à jouer à 2048, le Candy Crush des snobs, et je jure que je n'ai jamais été aussi heureux que quand les cases orange marquées 128 rougissaient pour former la case 256. Je vois à peu près vers quel horizon mélancolique tend la révolution des apprentissages. La seule façon de souscrire pleinement à la révolution des neurosciences, de la vivre vraiment comme une quête exaltante, c'est d'avoir la tentation de l'eugénisme, de rêver dangereusement à des améliorations possibles. Mais en attendant, notre cerveau est l'unique algorithme universel connu, et il n'y a rien de ce que les neurosciences découvrent qu'il peut faire, qu'il n'aura déjà fait. Il n'y a aucun docteur Kawashima au bout du chemin, aucun autre programme miracle d'entraînement cérébral que notre histoire elle-même, si décevante et si exaltante à la fois. Et on en viendrait presque à oublier, tellement attachés que nous sommes à devenir meilleurs pour explorer les niveaux cachés de Candy Crush, ou pour remonter de quelques places dans le classement PISA, que l'unique miracle connu, c'est que l'esprit existe, et que le seul objet de la révolution des neurosciences, ce serait de réussir à expliquer pourquoi le Parménide de Platon, l'image mentale qu'on se fait d'un film, le souvenir d'un amour perdu partage cette propriété unique, absurde et délicieuse de ne pouvoir exister que dans un intervalle de température situé entre 36 et 40 degrés. Pour retracer cette fièvre qui parcourt le monde, j'ai plus confiance aux neurosciences appliquées de la littérature qu'à une quelconque révolution heuristique sortie des éléments classés d'une IRM.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger, merci Pierre Charbonnier de nous avoir tenu compagnie. Abondance et Liberté, votre livre, publié aux éditions La Découverte. Merci à toute l'équipe des Matins, Pauline Chanu, Elodie Piel, Maïwenn Guiziou, Léa Capuano, Louison Caroué, Gwendoline Troyano, Mathilde Tonfourcade, Alexandra Longuet, Nicolas Paumé, Emmanuel Faucillon, Audrey Guélil. Bonjour Xavier Mauduit.
Bonjour Guillaume Erner.
Aujourd'hui dans le cours de l'histoire.
Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous allons faire un petit tour au siècle des Lumières avec l'historienne de l'art Anne Lafont pour faire la lumière sur les exclus de l'histoire de l'art, les femmes et les Noirs.
On vous écoute dans quelques instants. En attendant, il est 9h sur France Culture.